Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Cette fois. Amen. Vous m'entendez? Ça y est. Ouais. Gloire à Dieu. Ah, gloire au Seigneur. Merci. Voilà, bah écoutez, je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Comme me disait Monsieur Basile, eh bien, je sers le Seigneur à Saint-Mittoré, donc dans cette nouvelle fédération dans laquelle aussi vous appartenez, parce que eh bien Dieu effectivement suscite et fait grandir les églises, et il nous a permis, eh bien, d'après le confinement, de pouvoir ouvrir une église à Saint-Mittoré, une église qui, par la grâce de Dieu, va prospérer. Mais en tout cas, je suis heureux d'être ici parmi vous. Et vous savez, ce qui me plaît, c'est que lorsqu'on fait partie de la famille de Christ, partout où on va, dans ce monde, parce que nous avons tous à marcher dans ce monde. Et sans plus tarder, nous allons prendre dans la parole de Dieu Galates au chapitre 5 à partir du verset 16. Galates 5, verset 16, on va lire jusqu'au verset 25. Il est écrit: merci. Donc Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. On va attendre que ce soit un peu baissé. Gloire à Dieu. Amen. Il est dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Finira. Amen. Voilà. Paul donne un texte qui est vraiment très riche. Nous savons tous que Dieu est omniprésent et par conséquent que la présence de Dieu est partout sur la terre. Ça, nous le savons. Pourtant, cela ne suffit pas à sauver tout le monde ou à diriger tous les êtres humains dans la bonne direction, à les diriger sur le chemin, d'ailleurs le seul chemin de la vie, qui n'est autre que Jésus-Christ. Nous savons aussi que Dieu est constamment à nos côtés, en tout cas j'espère ce soir que tout le monde sait que Dieu est constamment à ses côtés. Nous savons qu'il est disponible pour nous à chaque instant de notre vie, pourtant cela ne suffit pas non plus à éviter que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se refroidissent et change de direction. De nos jours, vous savez, eh bien, le diable redouble d'efforts pour placer en nous de faux raisonnements, pour placer en nous de fausses doctrines qui, une fois arrivées à maturité dans nos esprits, nous entraîneront dans une mauvaise direction. Et croyez-moi, ces doctrines-là sont séductrices. Dans Matthieu, au chapitre 24, au verset 11, il est dit, c'est Jésus qui parle des derniers temps, et il va dire à ses disciples, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et il dira, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Vous savez, le diable fait tout pour stopper notre relation avec Dieu. Il fait tout pour stopper notre marche chrétienne, cette marche que nous devons avoir chaque jour de notre vie. Il fait tout pour nous empêcher de marcher selon l'Esprit, comme demandait Paul dans le texte que nous avons lu. Et il fait tout cela afin de nous égarer du seul chemin qui mène à la vie éternelle. Mais ce soir, eh bien Dieu voudrait nous rappeler qu'il y a deux manières de marcher dans le monde et seulement deux manières. Et ces deux manières-là ne sont pas à confondre. Nous pouvons marcher en sachant que Dieu existe, c'est vrai, mais nous pouvons aussi marcher selon l'Esprit de Dieu. Je vais le reformuler d'une autre façon. Nous pouvons vivre avec Dieu ou alors nous pouvons vivre remplis de Dieu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est un choix qui est personnel et un choix que nous avons tous à faire, eh bien, pour notre vie. Vous savez, nombreuses sont les personnes, nombreux sont les mouvements qui savent que Dieu existe, qui savent que Dieu est présent partout, qui savent que Dieu est mort sur la croix pour nos péchés, mais qui ont pourtant oublié que Dieu commandait de marcher selon l'Esprit de Dieu et non pas selon son propre esprit. Nombreux sont ceux qui ont oublié que Dieu demandait de vivre rempli de l'Esprit chaque jour et non pas de vivre chaque jour uniquement en sachant que Dieu existe et que Dieu vit en nous. Si le Saint-Esprit a fait de notre cœur sa demeure, ce n'est pas pour nous regarder marcher dans ce monde, mais c'est pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous encourager chaque jour que Dieu fait, afin de nous amener à penser et à agir comme Dieu le veut. Et c'est important d'en prendre conscience. Vous savez, j'ai très souvent entendu des chrétiens parler et venir me voir, même à moi, et me dire « Je marche de telle ou telle façon parce que je suis dans le monde. » Et parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait dans le monde. Je m'habille de telle ou de telle façon parce que je suis dans le monde. Et encore une fois, c'est ce qui se fait dans le monde. D'autres m'ont dit, mes frères, Dieu nous préserve. Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans le monde. Il faut vivre aussi. Et à chaque fois, je réponds, oui, c'est vrai. Il faut vivre. Oui, c'est vrai, nous sommes dans le monde. Mais il faut faire attention à la manière avec laquelle nous vivons dans ce monde. Car Dieu ne nous a jamais dit, vous êtes dans le monde, alors vivez comme le monde. Au contraire, il va dire, et nous le verrons dans Jean chapitre 17 au verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et au verset 11 de Jean 17, Jésus va dire, « Je ne suis plus dans le monde. » Et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Voilà la prière de Jésus-Christ, afin qu'ils soient un comme nous dans ce monde. Jésus-Christ dit clairement que nous sommes du monde, c'est vrai, mais il rajoute que nous ne sommes pas du monde. C'est pour cela qu'il demande au Père, dans sa prière, eh bien, que nous puissions vivre dans ce monde comme Jésus l'a fait avant nous. Et comment? Eh bien, en étant un avec le Père. Et non pas un avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, ou un avec la pensée de ce monde, une pensée qui est de moins en moins à la gloire de Dieu. Et nous le voyons aujourd'hui. La moralité n'est plus ce qu'elle était. Aujourd'hui, ce qui était mal avant est devenu le bien d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui est bien et bon et juste devant Dieu, eh bien, devient quelque chose finalement aux yeux du monde d'arriéré, de dépassé. Le monde a complètement perdu la tête. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, eh bien, il va de plus en plus, et il est de plus en plus, eh bien, dominé par la pensée du malin. Il est le prince de la puissance de l'air, nous dit la parole de Dieu. Et en lisant ces textes, et notamment le texte, eh bien, que nous avons lu, qui nous sert de texte de référence, nous devons prendre conscience que vivre dans le monde n'implique pas d'être obligé de penser et d'agir comme le fait et comme le dit le monde. Nous qui aimons le Seigneur Jésus, nous devons nous conformer à sa parole, nous devons nous conformer à sa manière de penser, à sa manière de marcher sur la terre. Vous savez, cette manière qu'il avait de faire.
d'être toujours bon, rempli de patience, de miséricorde, d'être toujours rempli de joie, de paix, de pouvoir procurer la paix par des paroles. J'entendais dans les prières, Seigneur, permets-nous aussi par nos paroles, eh bien, de pouvoir bénir les gens, procurer la paix aux gens. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dieu voudrait que chaque jour que nous marchions, eh bien, nous le fassions à sa manière. Il voudrait que nous soyons capables de nous sanctifier de jour en jour. Et il voudrait surtout que nous soyons capables de vivre remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est uniquement de cette façon-là que nous allons pouvoir marcher de la même manière que Jésus-Christ marchait sur la terre. Parce que Jésus-Christ, eh bien, était rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que Paul nous demande de l'être aussi. Dans notre verset de référence, Galates chapitre 5, verset 16, Paul disait « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, dit Paul, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Vous entendez ? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Paul, ici, est en train d'expliquer qu'il est nécessaire, je dirais même plus, qu'il est vital pour nous d'être remplis du Saint-Esprit et de marcher selon le Saint-Esprit. C'est pour nous le seul moyen que nous avons de ne pas succomber aux désirs de la chair, des désirs qui sont très présents dans notre vie. Vous savez, le Saint-Esprit est important pour le monde, c'est vrai, mais il est aussi important pour les chrétiens. Regardez, avant de partir au ciel, Jésus va dire à ses disciples, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, dit Jésus, je l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Mais pourquoi Jésus dit-il ici, « Il est avantageux que je m'en aille » C'est Jésus qui parle. Eh bien, tout simplement, parce que si Jésus ne partait pas, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Et à la différence d'avoir Jésus sur la terre, eh bien, le Saint-Esprit, qui est aussi Dieu, la différence qu'il va y avoir entre les deux n'est pas liée au statut de celui qui va, eh bien, faire ce travail sur la terre. Il n'est pas lié non plus à la personne, mais il est lié au travail qu'il va faire. Jésus a fait un travail en mourant à la croix. Il a fait un travail en payant la rançon de chacun d'entre nous, mais le travail du Saint-Esprit est différent. Le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde de justice, de péché et de jugement. Et dans la parole de Dieu, dans Jean au chapitre 7, à partir du verset 9, nous pouvons voir ce qui est écrit. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et une fois que la personne accepte Christ dans sa vie, eh bien, le Saint-Esprit va faire de son cœur sa demeure et il va le guider dans ce monde afin qu'il ne s'y égare pas. Le Saint-Esprit va le guider. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Et il dit, et il rajoute, et c'est très important, « Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Et que tu sois grand, petit, que tu sois riche ou pauvre, à l'intérieur de ton corps vit la personne du Saint-Esprit. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si tu reçois Christ, si tu donnes eh bien, ta vie au Seigneur Jésus, eh bien, le Saint-Esprit va venir dans ton cœur, il va y faire sa demeure. C'est la Bible qui le dit. Et j'aime beaucoup ce texte, parce qu'il enseigne que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est vrai, ça me plaît de savoir que le Saint-Esprit habite dans mon cœur, qu'il habite dans mon corps. Mais il nous rappelle surtout que si nous sommes le temple du Saint-Esprit, alors nous ne devons plus nous appartenir à nous-mêmes. C'est ce que la Bible enseigne. Beaucoup, vous savez, sont ceux qui voudraient que l'Esprit vive en eux tout en restant maître de leur propre vie, en restant maître de leurs décisions, sans ne jamais les remettre en question. Beaucoup sont ces gens-là. Beaucoup, vous savez, voudraient continuer à suivre ce qui se dit, ce qui se fait autour d'eux, pour continuer à participer à tout ce que le monde fait, les amis font, en marchant tantôt à la manière du monde et tantôt à celle de Dieu. Mais ce n'est pas ça que la Bible enseigne. En acceptant de recevoir le Saint-Esprit dans notre vie, nous acceptons aussi qu'il dirige nos pas. Nous acceptons aussi de lui faire confiance pour qu'il puisse être celui qui nous conduise là où nous devons être. Pour qu'il soit celui qui nous donne à dire ce que nous devons dire. C'est cela que Paul eh bien, essaye de nous enseigner à travers la manière de marcher du chrétien. Le chrétien ne peut pas marcher correctement sans être rempli du Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée au chapitre 2, et au verset 20, il est dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Et là, je me pose eh bien, cette question ce soir. Suis-je, un vase d'usage vil, rempli d'impureté et dirigé par la pensée de ce monde? Un vase vide, un chrétien charnel qui tantôt veut être au service de Dieu et tantôt veut être eh bien, au service de l'ennemi, c'est-à-dire eh bien, faire sa vie comme le monde l'entend? Ou alors est-ce que ce soir je suis un vase d'honneur, un vase rempli de l'huile parfumée du Saint-Esprit, une huile qui va me rendre utile au Seigneur? Une huile qui va me permettre de devenir utile au corps du Christ, utile dans mon Église, utile eh bien, dans la mission que Dieu me permet d'avoir, dans le ministère qu'il me donne, quel que soit ce que Dieu vous donne à faire. Quelle sorte de vase est-ce que je voudrais être ce soir? Vous savez, le Saint-Esprit ne délaissera jamais un croyant, jamais. Mais notre péché et notre désobéissance peut l'attrister et l'éteindre. Et nous devons comprendre que le péché et la désobéissance ont toujours des conséquences sur notre relation avec Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible insiste sur le fait de garder une relation proche de notre Seigneur afin justement de ne pas tomber dans cette désobéissance et de retomber dans peut-être le péché ou certains péchés que nous avons abandonnés. Et c'est pour ces raisons que Paul eh bien, nous recommande de ne pas attrister le Saint-Esprit par notre manière de vivre, par notre manière d'agir, de penser. Il le dira aux Éphésiens, au chapitre 4, il va dire « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel, il dira, vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est Paul qui parle. Vous savez, l'huile du Saint-Esprit est disponible en quantité infinie. Mais le problème, en réalité, c'est que trop souvent, nous ne sommes pas disposés nous-mêmes à nous laisser remplir par le Saint-Esprit. La Bible nous demande de marcher rempli du Saint-Esprit et non pas de marcher rempli de notre propre esprit, des pensées qu'il y a en nous. Nous devons vraiment faire cette différence. Nous ne pouvons pas marcher n'importe comment sur la terre. Nous ne pouvons pas marcher n'importe comment devant la face de Dieu. Si Dieu nous a permis d'avoir le Saint-Esprit qui vit en nous, c'est pour une bonne raison, afin qu'il puisse nous conduire et diriger notre vie. Mais encore, je le répète, faut-il le laisser faire? Il y a quelques années de cela, je suis tombé sur une série à la télé. C'est une fiction, je le précise. Et dans cette série, en fait, il y avait des riches qui possédaient tellement d'argent. Ils avaient cette possibilité de transférer dans leur corps, leur esprit, dans des corps différents. Et de cette manière, c'est des gens qui vivaient indéfiniment. Je ne dis pas éternellement, mais indéfiniment. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que la personne changeait de corps, sa façon de vivre en réalité restait la même. Et elle pouvait être reconnaissable par sa manière de parler, sa manière d'agir, sa manière de penser. Toutes ces choses-là, tous ces traits de caractère, venaient avec l'esprit qui habitait le corps. C'est ce que j'ai remarqué là-dedans. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais c'est vrai, Seigneur. Écoutez, si dans mon corps aujourd'hui, venait à rentrer ou à vivre l'esprit de Mozart, je serais un grand pianiste. Vous êtes d'accord avec moi? Et si dans mon corps il y avait l'esprit de Picasso, alors je deviendrais un peintre extraordinaire qui ferait des tableaux qui coûteraient des millions d'euros. Si dans mon corps venait à habiter l'esprit d'Einstein ou celui de Darwin, peu importe, alors je deviendrais un scientifique de génie, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Dans mon corps, il n'y a ni Beethoven, il n'y a pas non plus Picasso, ni Einstein, ni même pas Darwin, mais dans mon corps, il y a la personne divine du Saint-Esprit. Et ça, c'est ce qui change tout. Cela fait de moi quelqu'un de particulier. Et cela fait de moi quelqu'un qui marche d'une manière qui est complètement différente. Et vous savez quoi? Eh bien, les gens le voient. Les gens le sentent. Les gens le ressentent. Vous savez, les plus grandes, j'ai vu des personnes se convertir, non pas par une prédication, ni par un cantique. J'ai vu des personnes s'approcher de l'Église, s'approcher de Dieu, par rapport à la conversion de certains. Il y a des gens qui, lorsqu'ils voient certaines personnes, comment ils fonctionnaient avant, dans leur vie, leur manière de penser, d'agir, de parler, la méchanceté qu'il y avait dans leur cœur, l'orgueil et tout ce qui se passe, lorsque ces gens-là se convertissent et amènent leur cœur au Seigneur, lorsque le Saint-Esprit fait, eh bien, de leur cœur sa demeure, et lorsque ils sont complètement transformés par lui, ces gens-là changent. Et ça se voit. Et si vous saviez le nombre de personnes qui sont venues à Dieu pour ces raisons-là, il y a des gens qui viennent et qui disent, mais si cette personne-là a changé, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de particulier. Qu'est-ce que c'est? Et ce sont des gens qui se rapprochent de l'Église. Notre manière de marcher, notre manière de penser, notre manière de parler aura un impact sur les gens qui nous regardent. C'est ce que l'on demande dans nos prières. Eh bien, Dieu nous répond en disant, marchez selon l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit. Mais si je dis que le Saint-Esprit vit en moi, alors mon témoignage parlera de lui-même. Tout le monde le verra. Et ça, c'est important. Je ne peux pas dire que le Saint-Esprit vit en moi si je ne change pas de comportement, si je ne change pas de manière de penser. Vous comprenez? Tout doit changer. Il y a une expression dans le monde qui dit « Montre-moi avec qui tu restes et je te dirai qui tu es. » Tout le monde connaît cette expression? Je l'ai souvent entendue et c'est mon père qui me l'a répété souvent. Il me disait, Franck, montre-moi avec qui tu restes et je vais te dire qui tu es. Il allait même plus loin, il dit, je vais te dire qui tu deviendras. Eh bien, ce soir, je pourrais dire de la même manière, montre-moi comment tu vis et je pourrais te dire quel esprit vit en toi et quel esprit guide tes pas. Alors attention, je ne demande pas de faire pour être. Ce n'est pas ce que je dis. Au contraire. C'est parce que je suis rempli du Saint-Esprit que je serai amené et poussé à faire, ce qui est complètement différent. Parce que si le Saint-Esprit vit en toi, il ne va certainement pas t'amener à pécher, t'amener à critiquer ou même à juger, bien au contraire. Il va t'amener à pardonner, il va t'amener à avoir de la compassion, il va t'amener à prier, il va t'amener à jeûner. Alors je le répète, montre-moi comment tu marches chaque jour et je pourrai te dire quel esprit guide tes pas. Il y a une nécessité aujourd'hui, frères et sœurs. Et cette nécessité, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir marcher selon lui et non pas selon notre propre volonté. Vivre en sachant que Dieu est là, vivre en sachant que Jésus est mort pour nous et que le Saint-Esprit est celui qui vit en nous, c'est une chose. Mais ce que Dieu veut finalement, c'est nous voir remplis du Saint-Esprit pour qu'il puisse guider nos vies. C'est complètement différent. Éphésiens chapitre 5 verset 18 va dire « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Et il dira « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Vous entendez? « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. » C'est un verset que j'ai lu pendant des années sans le comprendre réellement. Et puis un jour, eh bien, le Seigneur m'éclaire. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit que si je bois un verre de vin, je le bois. Eh bien, partout où j'irai, le verre de vin que je viens de boire, eh bien, m'accompagnera. Vous êtes d'accord? Mais maintenant, si je ne bois pas un verre de vin, mais que je bois deux, voire trois bouteilles de vin, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, c'est moi qui vais accompagner les deux ou les trois bouteilles de vin que j'aurai bu, là où ils voudront m'amener. Je dirai ce qu'ils m'amèneront à dire. Je ne serai en gros plus maître de moi-même. Ça, c'est ce qui se passerait. Ce qui veut dire que si je suis rempli du Saint-Esprit, eh bien, ce n'est plus moi qui vais marcher. Ce n'est plus moi qui vais parler comme j'en ai envie. Ce n'est plus moi qui vais penser comme je veux. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi, qui va m'amener là où il veut que j'aille, qui va me faire parler comme il veut que je parle, qui va me faire penser de sa façon à lui et qui va me faire agir de sa manière. C'est cela, être rempli du Saint-Esprit. Je dois être dépendant de Dieu de cette manière. C'est très important pour notre vie. Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui va passer du temps dans la prière. Du temps dans la prière parce que, eh bien, il sait que c'est comme ça que son vase va être rempli de l'huile du Saint-Esprit. Et cette personne-là sera la personne qui pourra être guidée par Dieu. Mais si je ne passe pas de temps avec Dieu, si je n'ai pas une relation solide avec lui, comment puis-je prétendre être rempli du Saint-Esprit? Ou comment, eh bien, est-ce que je pourrais penser que l'huile du Saint-Esprit va venir se déverser sur ma vie? L'onction de Dieu. C'est important de passer du temps avec Dieu. Paul a dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Soyez remplis du Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Marchez selon l'Esprit, frères et sœurs, signifie être amené par Dieu d'un point A à un point B. Marcher selon l'Esprit signifie recevoir une force et une sagesse supérieure, quelque chose que l'homme ne connaît pas. Marcher selon le Saint-Esprit, eh bien, c'est marcher dans l'obéissance à sa parole, l'obéissance au commandement de Dieu. Le Saint-Esprit, vous savez, a toutes les bonnes qualités possibles et imaginables pour nous. Il nous donne le pouvoir de porter de lourdes charges. Il nous donne le pouvoir de supporter l'adversité, mais il nous permet aussi d'être guidés. Il connaît le chemin que Jésus a ouvert sur la terre. Il connaît la route qui nous permet eh bien, d'échapper à tout ce qui est néfaste, à tout ce qui est négatif pour notre vie spirituelle. C'est lui qui nous permet d'être remplis de joie, d'être remplis de paix. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, eh bien, tu deviens parfaitement heureux. Et ceux qui sont autour de toi, encore une fois, le remarquent. Il y a une différence dans ta manière de vivre. Et la paix, eh bien, c'est quelque chose qui manque beaucoup de nos jours. Mais posons-nous la bonne question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, de plus en plus de chrétiens ne sont plus en paix? Pourquoi est-ce que de plus en plus de chrétiens arrivent à devenir et à passer par des dépressions? Pourquoi est-ce que certains ont même des idées de suicide? Quelqu'un est venu me voir dernièrement pour me parler de cela. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce que beaucoup aujourd'hui n'ont plus cette joie? Mais cette joie profonde, vous savez, je ne parle pas de la joie passagère. Celle que vous allez pouvoir trouver dans le monde lors d'une sortie. Ou lorsque vous allez avec des amis eh bien, à la montagne, vous promenez ou dans un parc d'attractions. Je parle d'une joie profonde, la véritable joie. Aujourd'hui, eh bien, beaucoup en manquent. Vous savez, un pasteur a dit un jour, et je l'ai retenu parce que sur le coup, ça fait mal. Mais je l'ai retenu. Il a dit, dis-moi la vie de communion que tu as avec Dieu et je te dirai pourquoi tu n'as pas la paix. Et c'est vrai que sur le coup, eh bien, j'ai trouvé ces paroles difficiles à entendre. Mais après avoir relu la Bible et toutes les promesses que Dieu nous a faites, eh bien, je me rends compte qu'en réalité, cet homme de Dieu avait raison. Parce que la Bible ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme. Il ne se repent pas non plus de ce qu'il dit. Écoutez, Jean chapitre 14, verset 27, il dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Et croyez-moi que le Seigneur Jésus était en paix. Il dit, « Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » Ésaïe, chapitre 26, verset 3, regardez ce qu'il dit. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix, parce qu'il se confie en toi. Ou bien dans Philippiens, Paul va dire, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin avec un cœur reconnaissant. » Et il dit, « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. » La paix de Dieu, celle que Jésus-Christ avait lorsqu'il était sur la terre. C'est de cette paix-là qu'on parle. C'est de cette joie-là aussi qu'on parle. Et pourtant, eh bien, tout cela fait défaut aujourd'hui. Parce qu'il faut le demander en toutes circonstances. Vous savez, ce verset disait, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu. » Encore faut-il le demander en toutes circonstances. Au lieu d'essayer trop souvent par nous-mêmes de résoudre les problèmes. Et qui dit en toutes circonstances, veut dire relation constante avec Dieu. Combien de fois nous avons dit, c'est vrai Seigneur, je remets ça au pied de la croix, je te laisse faire, tu es puissant. Et combien de fois, lorsque nous avons fini la prière, nous nous sommes relevés et nous nous sommes mis à penser au problème que nous avions afin d'y trouver une solution. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu dit, je suis tout-puissant. Confie en moi, espère en moi, demande. Et c'est Dieu qui va agir. La Bible dit et que Dieu dit à son peuple, et je combattrai pour vous. Mais parfois, nous ne le laissons pas combattre à notre place. Parfois, nous prenons la place de Dieu. Nous lui demandons, mais nous ne voulons pas le laisser agir derrière. Parce que nous nous inquiétons. Mais il était dit dans ce verset de Philippiens, ne vous inquiétez de rien. C'est ce qu'il est dit. Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière. Encore faut-il, eh bien, agir de cette façon. Vous savez, il est facile d'accuser simplement la chair ou de se dire, eh bien, et je l'ai souvent entendu, je ne suis qu'un homme ou je ne suis qu'une femme. Mais ce soir, je veux le dire de la part de Dieu. Lorsque tu es dans cet état de pensée, si cela t'arrive, c'est qu'il y a quelques mesures de Dieu qui sont restées en dehors de toi. C'est que tu n'es pas totalement rempli justement de Saint-Esprit. Parce que si tu es rempli de Dieu, si tu es rempli de l'Esprit comme le demande Jésus-Christ, alors tout sera différent. Écoutez, quand tout va mal et que tu es là et que tu es abattu chez toi parce qu'un problème ou plusieurs problèmes, parce qu'on en a plusieurs, mais plusieurs problèmes de la vie sont là, se présentent devant toi. Lorsqu'il y a quelque chose qui te paraît énorme comme une montagne, vous savez, comme ce géant Goliath que David devait aller combattre. Quelque chose que tu te dis, mais non, c'est pas possible, moi je ne peux rien faire. Quelque chose qui t'amène à être désespéré de cette situation, lorsque tu es dans cet état-là. Si tu te permets de rentrer dans ta chambre, de faire comme la parole le dit, de te mettre à genoux, de rentrer en communion avec ton Seigneur, de te mettre à prier, de lui demander sans t'inquiéter, de lui dire, Seigneur, maintenant c'est toi, je sais que toi tu peux, je sais que toi tu veux, Seigneur, tu vas me bénir, Seigneur, mais tu vas bénir, arracher, enlever cette situation de ma vie. Eh bien, vous savez ce qu'il va se passer. Eh bien, la paix de Dieu, la joie de Dieu va venir rentrer dans votre cœur. Et vous savez quoi? Eh bien, au lieu de vous morfondre et de vous apitoyer sur votre sort, eh bien, vous allez simplement mettre en pratique ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et alors, même abattu dans l'épreuve, même avec le problème qui est encore présent, même ça, lorsque vous sortirez de votre chambre, eh bien, vous allez vous retrouver ressourcé, béni, restauré. C'est la force d'un lion que vous allez avoir, avec la conviction que Dieu sera celui qui va agir dans votre vie. Mais c'est simplement de cette façon-là que Dieu pourra remplir votre cœur de paix, d'amour et de joie, afin que vous soyez capable de supporter l'épreuve qu'il y a devant vous, tout en faisant confiance à Dieu pour que ce soit lui qui combatte à votre place, ou pour que ce soit lui qui vous dise quoi faire pour enlever cette épreuve de votre vie. Et ça, c'est important. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons chaque jour remplis du Saint-Esprit. Et je vais terminer avec ceci. Notre verset de référence disait quelque chose d'important. Il disait, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vous savez, il est important de bien comprendre, et je sais que vous le savez, mais je vais quand même le répéter. Il n'y a qu'un seul fruit de l'Esprit. Il n'y a pas plusieurs fruits de l'Esprit. Souvent, nous disons qu'il est difficile de mettre en pratique la douceur, ou la patience, ou même la tempérance. Et j'avoue que ce n'est pas facile. Mais peut-être que le problème principal, en réalité, est notre manque de communion, et notre manque de relation avec Dieu. Le manque de temps que nous lui consacrons chaque jour, peut-être. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, Dieu aime nous voir passer du temps avec lui, mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que nous passions du temps avec lui et non pas pour lui, pardon. Dieu aime que nous passions du temps pour lui, mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que nous passions du temps avec lui. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous savez, Paul, celui qui a écrit, eh bien, le livre l'Épître aux Galates, était un homme rempli de Dieu. C'était un homme rempli de l'Esprit. Un homme, eh bien, qui passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Un homme qui avançait uniquement par le Saint-Esprit. Si Il voulait aller à droite et que Dieu lui disait « Non, Paul, tu vas à gauche », il ne cherchait pas à comprendre, il ne cherchait pas non plus à débattre avec Dieu, il allait à gauche. Ça, c'était Paul, parce qu'il était rempli de l'Esprit. Alors, eh bien, lorsqu'il recevait quelque chose de la part de Dieu, il se mettait en pratique ce qu'il avait reçu. Et nous le voyons bien, Paul n'a eu cesse d'être dirigé par le Saint-Esprit. Nous le voyons dans les Actes des Apôtres, par exemple. Chaque endroit où il allait, chaque endroit était conduit par Dieu. Chaque endroit. C'est exactement comme ça que nous devons être. Mais c'est aussi pour cette raison que l'apôtre Paul a pu dire « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et c'est en étant comme Paul, rempli de l'Esprit, que nous allons aussi, nous, pouvoir pratiquer véritablement et pleinement le fruit de l'Esprit. Vous savez, toutes ces choses qui sont difficiles à avoir, je vous l'assure, si l'Esprit, le Saint-Esprit dirige notre vie, alors nous serons remplis du Saint-Esprit, alors eh bien, nous serons en mesure de pratiquer le fruit de l'Esprit dans sa totalité. Dans sa totalité, frères et sœurs. Mais pour cela, encore faut-il laisser agir le Saint-Esprit à notre place. Si nous l'écoutons et si nous faisons ce qu'il nous conseille de faire, nous ne pourrons faire que les bonnes choses qui sont décrites à l'intérieur de la parole de Dieu. Et Dieu nous appelle encore aujourd'hui à marcher selon l'Esprit. Il nous appelle à être chaque jour remplis de Dieu. Et croyez-moi, je vous le dis, c'est une importance capitale pour notre vie, mais aussi pour la vie de ceux qui nous entourent. Car vivre selon l'Esprit signifie se laisser guider. Se laisser guider par lui, et vous savez quoi? Eh bien, le résultat va se faire voir dans notre témoignage. La Bible dira, et c'est Pierre dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12, il dit « Ayez au milieu des païens, écoutez bien, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. » D'où l'importance de notre témoignage et surtout d'où l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que sans cela, nous ne pourrons pas résister à toutes ces choses. Sans cela, nous ne pourrons pas être vainqueurs sur la chair. C'est Paul qui le disait dans le verset de référence. Vainqueurs sur nos désirs. Soyons attentifs et ayons une communion réelle, permanente avec Dieu. Afin que nous puissions être remplis et afin que nous puissions chaque jour nous laisser diriger par notre Dieu. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, à combien je veux te remercier, Seigneur, pour ces instants. Te remercier, mon roi, parce que eh bien, tu es celui qui nous dirige, celui qui nous bénit. Et Seigneur, c'est vrai que ce soir, je voudrais que tu puisses nous faire prendre conscience de l'importance de ne pas simplement savoir que tu existes, ou de savoir que tu es celui qui habite en nous, mais au contraire, que nous soyons conscients que nous devons marcher en étant remplis de ton esprit. Permets-nous, s'il te plaît, de pouvoir avoir cette relation avec toi qui va faire en sorte que nous soyons fidèles et que nous soyons, eh bien, prêts et capables d'écouter le Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. Merci Seigneur, bénis-nous, bénis, remplis nos cœurs, bénis cette église, bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur, afin que vraiment chaque jour, ils puissent continuer à vivre en étant encouragés par toi. Seigneur, à rechercher ta présence, à rechercher ton amour, ta paix, ta joie. Seigneur, s'il te plaît, je te le demande. Merci pour tout. Amen.